Bonjour à toutes, bonjour à tous. S'il y a un mot sur toutes les lèvres en ce moment, c'est bien celui de consentement. Et comme souvent, ce sont les mots que l'on emploie le plus, qu'on comprend le moins. Alors, quelle est votre définition du consentement? Pas facile, hein. Suffit-il de dire oui pour consentir? Peut-on consentir contre son gré? Et si le consentement n'était qu'une des modalités de la domination? Allez, la route est escarpée, mais la philosophe Geneviève Fraisse est en studio pour vous guider. En route, sur les chemins de la philosophie, on commence avec un consentement mutuel qui n'est pas un mariage.
En conséquence, nous, Madame Dardigna, juge aux affaires matrimoniales, prononçons sur leur demande conjointe le divorce des époux, Monsieur Douanel Antoine et Madame Douanel Christine, née d'Arbon, née à Dijon le 12 mars 1951. Homologuons la convention définitive portant règlement des effets du divorce, de la séparation de corps qui demeurera annexée à la minute du présent jugement. Disons que les dépenses seront supportées selon les modalités prévues à la convention ou à défaut partagées par moitié entre les deux parties.
Voilà. Il n'y a rien à signer.
Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces personnes-là?
J'en étais sûr, ce sont des gars de la radio. Vous êtes le premier couple à divorcer par consentement mutuel, alors.
Ah non, maître, restez.
Non, il y en a un qui prend des photos, tu crois qu'il nous en donnera une?
Pour le moment, relax.
Vous êtes bien, monsieur et madame.
C'est tellement plus agréable pour tout le monde de faire bonne figure, n'est-ce pas?
Excusez-moi. Au revoir, maître.
Le divorce par consentement mutuel, c'est quoi pour vous?
C'est pas le divorce giscardien, le divorce par consentement mutuel a été inventé sous la Révolution, n'est-ce pas, Antoine?
Oh, moi, je n'ai rien à dire.
Eh ben, Raoul, on salue plus les amis?
Colette, je suis ravie de vous voir.
Moi aussi. Mais dites-moi, je le connais, ce type. Je l'ai connu autrefois aux jeunesses musicales. Il m'a abordé, sale Pleyel. Antoine Douanel.
Et c'est pratiquement mon client. Il s'est occupé de son ex-femme. Dardigna vient juste de prononcer leur divorce par consentement mutuel.
Ça alors? Antoine est divorcé. Je me demande si je devrais lui présenter mes condoléances ou mes félicitations à celui-là.
Mais Napoléon a quand même profité de la loi de la Révolution pour larguer Joséphine. Tu crois pas, Antoine?
Douanel part en courant. Il a pas changé, en tout cas, celui-là.
Ils ont voulu nous marier, toi qui ne m'aimes guère. Ils ont voulu nous marier, moi qui ne t'aime pas. Ils croyaient qu'on était amants, mais on ne l'était guère. Ils croyaient qu'on était amants, mais on ne l'était pas. Chagrin contre chagrin, épaule contre épaule, c'est terrible et c'est drôle, on n'y comprenait rien. Nous, c'était pas pareil, on avait tout à vivre, on rêvait d'être libre, les enfants du soleil. Ils ont voulu nous marier, toi qui ne m'aimes guère. Ils ont voulu nous marier, moi qui ne t'aime pas.
Bonjour Geneviève Fraisse.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Oui, merci de me recevoir.
C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez été déléguée interministérielle aux droits des femmes en 97-98, députée au Parlement européen de 1999 à 2004. Et vous avez fait paraître, il y a quelques années, un livre qui s'appelle « Du consentement », qui est reparu cette année avec un nouveau texte dedans, un épilogue sur lequel on reviendra peut-être, aux éditions du Seuil. Le consentement, consentir, c'est pas forcément accepter un lien, c'est aussi parfois le rompre, comme dans le cas du divorce d'Antoine Douanel dans L'amour en fuite de François Truffaut, qui met en scène en 1979 le premier divorce par consentement mutuel.
Premier divorce, c'est 75, hein, la loi qui réinstaure le consentement mutuel, qui avait donc été abandonnée au moment où le divorce est à nouveau interdit en 1816 par le vicomte de Bonald. Et ce qui est très beau, c'est deux choses. D'abord qu'on parle du divorce instauré par consentement mutuel de la Révolution française, dont Bonaparte va se servir effectivement comme consentement mutuel pour se séparer de Joséphine. J'allais justement prendre cet exemple. Et pour en venir à ce qui fait le début de mon travail, à savoir le texte de Milton, le poète, Doctrine et discipline du divorce en 1644, qui va effectivement dire que Le divorce, c'est bien, parce que c'est pas pour condamner un adultère ou autre violence, c'est parce qu'il y a un défaut de conversation entre deux personnes. Donc il faut du consentement mutuel. Donc revenons vers le XVIIe siècle pour parler du consentement, en soulignant, pour commencer, je vous remercie vraiment de cette première archive, parce que c'est par le négatif que le consentement mutuel entre en lice à nouveau. Pendant la au début de la modernité, il a déjà été utilisé, mais je ne peux en parler à Rome. Mais là, on est dans un consentement mutuel. Voyez qu'il y a un adjectif. On va d'ailleurs revenir sur la question des adjectifs, j'en suis sûre. Et surtout, c'est donc par le négatif qu'on va poser la réciprocité entre deux personnes de sexe différent, en l'occurrence pour cette histoire du mariage hétérosexuel.
Ça veut dire que consentir, ce n'est pas forcément dire oui.
Alors, d'abord, on peut s'arrêter sur le négatif, et puis il va falloir passer au positif. Et là, au même moment, je suis donc allée consulter les dictionnaires, on voit qu'il est tout de suite distingué les deux façons d'entrer dans le mot consentement, c'est choisir et accepter. Mmh. Évidemment, c'est choisir et accepter, c'est adhérer ou je n'en peux mais. Et puis, je vous rappelle qu'il y a aussi l'expression « donner son consentement », mais aussi « arracher un consentement ». Donc, on voit bien qu'on a les deux sens, les deux directions qui s'ouvrent dès la modernité, avec, puisque vous voulez, je croyais que vous alliez me dire qu'est-ce que le consentement, eh bien, je pense à Pascal, qui parle du consentement de vous à vous-même. C'est-à-dire que le débat, il est d'abord à l'intérieur de soi. Et c'est pourquoi il faut accepter ce que dit la personne. On ne va pas aller à l'intérieur de la personne pour savoir si c'est un vrai ou un faux consentement. C'est d'ailleurs en ce sens que j'ai voulu écrire ce livre, car je te trouvais le débat sur le consentement des années 90-2000 pas placé au bon endroit, qui était sur est-ce un vrai consentement ou un faux consentement. Alors on s'interrogeait sur la vérité du sujet. Or c'est précisément la question que je ne pose pas.
C'est vrai, mais alors. Bon, je pense que c'est aussi le but de ces émissions cette semaine, de faire toute cette série sur le consentement. S'il vous plaît, aidez-nous à définir ce qu'est le consentement. Votre définition du consentement?
Alors, le consentement se modélise ou se problématise de plusieurs façons. C'est ce que j'appelle un cube. Il y a à la fois trois histoires, le mariage et le divorce. Première histoire. Le deuxième, c'est à l'intérieur du contrat social. Par exemple, on pourra parler du consentement des dominés, du temps de la colonisation ou du temps de n'importe quelle domination sociale ou sexuelle. Et la troisième histoire, c'est celle de l'individu contemporain. Donc on a déjà trois histoires en trois siècles qui sont, trois façons qu'il va falloir, appréhender pour pouvoir parler du consentement. C'est trois histoires différentes. Le consentement individuel, le consentement collectif et le consentement qui se revendique politique mais en même temps individuel. Mmh. D'où la question que moi j'ai posée, c'est effectivement la question n'était pas qu'est-ce que le consentement, mais qu'est-ce que le consentement comme argument politique. Donc je suppose que nous y reviendrons. Mais une fois que vous avez ces trois histoires, c'est pour ça que j'appelle ça un cube, vous avez chaque fois deux façons de poser la question. C'est la clarté et l'obscurité. Vous savez bien qu'on parle du consentement éclairé, qui est d'ailleurs bafoué dans les hôpitaux. Ça, c'est un débat que moi, je ne suis pas capable d'avoir, mais qui occupe beaucoup la question du rapport entre le droit et la question du malade. Et vous avez, le consentement peut être libre, et puis il peut être tacite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut mettre des adjectifs. Vous savez, dès qu'on met des adjectifs à un concept, moi, je me réveille et je me dis que se passe-t-il? C'est comme il y en a qui parlent, puisque moi je m'intéresse à la question de l'égalité des sexes. Il y a l'égalité parfaite, il y a la presque égalité, dit-on au XIXe siècle. Moi toujours, je me demande comment il faut qualifier des mots qui normalement sont, et c'était ça mon objectif philosophique, c'est-à-dire de bien le prendre comme un concept. Un concept, c'est une forme vide. Donc je ne vais pas vous dire ni quel est le bon, ni quel est le mauvais consentement.
On peut essayer de procéder par distinction conceptuelle avant d'en faire l'histoire, et c'est une histoire passionnante, celle du concept de consentement, qui est aussi l'histoire des relations entre l'homme et la femme, qui n'ont historiquement jamais eu la même valeur au regard du consentement, ça vous le montrez très bien. Mais avant cela, comment distinguez-vous par exemple le consentement de l'acquiescement, du fait d'adhérer, de la volonté?
Alors, c'est une question extrêmement importante, parce que pour ma part, dans mon parcours intellectuel personnel, la question du consentement me posait une double question que je ne me posais pas quand j'ai dû traiter d'autres sujets sur l'histoire de l'émancipation des femmes. C'est le rapport entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut dire oui avec le corps et non avec la tête, ou dire oui avec la tête et non avec le corps. Donc là, il y a quelque chose d'un mystère du rapport entre le corps et l'esprit, qui évidemment pour toute cartésienne, pourquoi cartésienne? Simplement parce que le cartésianisme est un bon endroit pour penser l'égalité des sexes. Ça, c'est une autre histoire, bien plus que le matérialisme, on s'en doute. Et la deuxième chose qui est intéressante avec le consentement, c'est que le consentement, c'est la question du rapport. Autre problème, de mon point de vue philosophique, qui était que moi, j'ai travaillé sur l'autonomie des femmes. On devient citoyenne, on devient travailleuse, on devient écolière ou agrégée. Bref, on est des sujets autonomes. On a un habeas corpus avec la contraception et l'avortement, etc., etc. Et tout d'un coup, cette question de l'autonomie, j'avais à la re-réfléchir dans la relation à l'autre. Et ça, c'est effectivement extrêmement compliqué. Donc du coup, si vous voulez, le mot consentement, vous dites c'est un concept, moi je suis ravie que vous le disiez, car quand j'ouvre les dictionnaires de philosophie, je ne vais pas trouver le mot consentement à chaque dictionnaire que je vais ouvrir du XXe siècle, c'est pas vrai. C'est-à-dire c'est une notion, c'est une représentation, c'est une idée, mais ce n'est pas considéré comme un concept si important que cela, qu'il trône dans l'ordre alphabétique des concepts.
En tout cas, il y a une ambiguïté inhérente à ce concept, et c'est ça qui le rend passionnant et qui rend urgent la définition de ce concept pour continuer à l'utiliser comme on le fait aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est que le consentement, comme vous dites, est toujours une affaire intérieure, mais déjà qu'il n'est pas forcément en accord avec soi-même. Parfois, le corps dit oui quand l'esprit dit non et inversement, mais le consentement est un acte qu'on le donne à quelqu'un d'autre. C'est un lien qui est établi, on entre toujours dans un rapport de force lorsqu'on consent. Ce qui rend la situation
extrêmement compliquée. Ou un rapport d'égalité. C'est ce que prônait
le divorce,
John Milton.
Bien sûr,
c'est un rapport d'égalité, c'est-à-dire nous sommes deux à consentir. Alors, quand vous dites ambiguïté, là encore, puisque nous sommes dans une émission de philosophie, est-ce que vous le diriez pour un autre concept qu'il y aurait de l'ambiguïté, ou simplement de dire que à partir de ce concept, on a un outil fantastique pour poser beaucoup de questions.
Bah, les deux, oui, c'est ça. C'est propre d'un concept que ne peut pas réduire à un seul sens, sinon c'est pas un concept,
voilà,
c'est un mot.
C'est important de le dire aux auditeurs, parce qu'en ce moment, on est obsédé par l'idée qu'on devrait le définir, alors que précisément, si c'est un concept, il entre en jeu comme une boîte de... pas de Pandore, parce que là, on va... Pandora
une
va
boîte à convoquer, outils, même.
Mais une boîte à outils, tout simplement. Et c'est en ce sens que moi, je l'ai proposé il y a plus d'une dizaine d'années, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, regardez, si vous voulez porter le foulard ou vous prostituer, c'est ce mot-là qui revient, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, du coup, c'était pas du tout l'idée de dire ce qu'était le consentement, le bon et le mauvais, ce que certaines amies féministes ont fait en disant, mais ce consentement sous la contrainte, c'est pas un vrai consentement. Non, on doit prendre toute parole du sujet parlant comme la parole de sa vérité. On n'a donc pas à intervenir sur vous vous trompez, c'est pas le bon consentement. Mmh. Maintenant, qu'il y ait des zones glauques, tenez, il y a une expression dont je me suis peu servie, mais qui est quand même importante, qu'est-ce qu'une victime consentante? C'est d'ailleurs encore un féminin, hein. Comme vous le savez, j'ai épinglé le mot consentant, le substantif adjectivé consentant, qui parfois est défini. Je vous ai encore apporté quelques nouvelles illustrations de ce que je dis dans mon livre. C'est j'avais pêché dans un livre le fait de l'expression qui était « ne se dit guère que des femmes », mais c'est vrai que est-ce qu'on parle d'un homme consentant ? Alors, il y a les victimes. Donc là, on rentre dans le rapport entre les sexes, et on va voir que là, on a une épaisseur historique qui met le consentement du côté des femmes.
Alors, on va prendre deux cas particuliers avec vous, puisque comme vous le dites, pour la meilleure façon encore de définir un concept et d'en montrer qu'il est le caractère opératoire. D'abord, détour par la fiction. On a beaucoup entendu parler de l'affaire Weinstein récemment. Beaucoup de choses ont été dites. Vous êtes beaucoup exprimé à ce sujet. On a trouvé un cas particulier du côté de la fiction, du côté de Star Wars, figurez-vous, pour essayer de pointer l'ambiguïté du consentement amoureux. Voici un extrait, disons une scène de séduction entre d'un côté Han Solo et de l'autre la princesse Leia. Écoutez comment le rapport de force s'engendre, et puis ensuite on va entendre la conceptualisation par Rousseau, mais oui, de cette grande difficulté qu'il y a à mettre des mots sur le rapport de séduction qu'il peut y avoir entre les deux sexes, qui est toujours fait d'une forme de domination. Est-ce que le terme de consentement a encore son mot à dire, enfin trouve encore sa place dans cette situation? Écoutez, la guerre des étoiles d'abord, Rousseau ensuite.
Sir, it's quite possible this asteroid is not entirely stable.
Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça. Chewie, emmène le professeur à l'arrière et branche-le sur l'hyperpropulsion.
Il y a des moments où je ne comprends pas les réactions humaines. Après tout, j'essaie simplement de faire au mieux mon travail.
a pas de quoi s'exciter.
Capitaine, me tenir comme vous le faites n'est pas suffisant pour m'exciter.
Désolé, mon cœur. Nous n'avons pas le temps pour autre chose.
Votre honneur, je veux juste vous aider un peu, vous ne voyez pas?
Voulez-vous, s'il vous plaît, ne plus m'appeler comme ça?
Oui, Leia.
Vous rendez les choses si difficiles parfois.
C'est, vous avez raison. Mais vous pourriez être plus gentil, vous aussi. Admettez, il y a des moments où vous me trouvez très bien.
De temps en temps, oui, c'est possible. Quand vous ne vous conduisez pas comme un vaurien.
Un vaurien? Un vaurien? J'adore ce mot-là.
Cessez de faire ça.
De faire quoi?
De faire ça. Mes mains sont sales.
Les miennes sont sales aussi, mais de quoi avez-vous peur?
J'ai peur.
Vous tremblez?
Mais non, je tremble pas.
Je vous plais parce que je suis un vaurien. Et qu'il n'y a pas de vaurien dans votre vie.
J'aime les hommes gentils, c'est vrai.
Je suis un gentil vaurien.
Je trouve...
Capitaine, capitaine, j'ai isolé l'accouplement de puissance inversée.
Merci. Merci beaucoup.
Oh, ce fut un plaisir pour moi, capitaine.
L'homme peut être audacieux. Telle est sa destination. Distinguons cette audace de l'insolence et de la brutalité, car rien ne part de sentiments plus opposés et n'a d'effet plus contraire. Je suppose l'amour innocent et libre, ne recevant de loi que de lui-même. C'est à lui seul qu'il appartient de présider à ses mystères et de former l'union des personnes ainsi que celle des cœurs. Qu'un homme insulte à la pudeur du sexe et attente avec violence au charme d'un jeune objet qui ne sent rien pour lui, sa grossièreté n'est point passionnée, elle est outrageante. Elle annonce une âme sans mœurs, sans délicatesse, incapable à la fois d'amour et d'honnêteté. Le plus grand prix des plaisirs est dans le cœur qui les donne. Un véritable amant ne trouverait que douleur, rage et désespoir dans la possession même de ce qu'il aime, s'il croyait n'en point être aimé. Vouloir contenter insolemment ses désirs sans l'aveu de celle qui les fait naître est l'audace d'un satyre. Celle d'un homme est de savoir les témoigner sans déplaire, de les rendre intéressants, de faire en sorte qu'on les partage, d'asservir les sentiments avant d'attaquer la personne. Ce n'est pas encore assez d'être aimé. Les désirs partagés ne donnent pas seuls le droit de les satisfaire. Il faut de plus le consentement de la volonté. Le cœur accorde en vain ce que la volonté refuse. L'honnête homme et l'amant s'en abstient, même quand il pourrait l'obtenir. Arracher ce consentement tacite, c'est user de toute la violence permise en amour. Le lire dans les yeux, le voir dans les manières malgré le refus de la bouche, c'est l'art de celui qui sait aimer. S'il achève alors d'être heureux, il n'est point brutal, il est honnête. Il n'outrage point la pudeur, il la respecte. Il la sert, il lui laisse l'honneur de défendre encore ce qu'elle eut peut-être abandonné.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du consentement cette semaine, aujourd'hui, en compagnie de la philosophe Geneviève Fraisse, qui est auteure d'un ouvrage qui s'appelle « Du consentement », avec une nouvelle édition qui reparaît au Seuil cette année. Alors, ce texte de Rousseau, c'est vous qui le citez, Geneviève Fraisse, dans votre ouvrage. C'est un extrait de la lettre à D'Alembert. C'est un texte merveilleux de finesse et de précision qu'on lit sans savoir pendant un moment quelle est vraiment sa position. Avant d'en venir là, Rousseau commence en disant « Distinguons l'audace de l'homme, de l'insolence et de la brutalité. » Quand Han Solo fait du rentre-dedans à la princesse Leia, qui de toute évidence est quand même séduite par Han Solo, est-ce qu'il est audacieux ou insolent et brutal?
Ah, vous savez, il faut revenir à... Alors, deux choses. D'abord, je suis étonnée qu'on ait fait lire ce texte par une femme. Il fallait le faire lire par un homme, excusez-moi d'être...
Alors, on a un budget comédien limité, Geneviève Fraisse, qui fait que c'est un ou une comédienne qui lit des textes.
Non, mais juste parce qu'il faut entendre la voix de Rousseau. C'est une voix masculine qui écrit ce texte.
Et pourquoi pas une femme pourrait lire ce texte? Parce que
pour entendre comment c'est un homme qui parle dans ce texte. Voilà. Donc ça, c'est...
Peut-être forcément genré, la question.
Là, en l'occurrence, je pense que ça serait entendu ou audible de manière plus multiple si c'était effectivement Luc à la place de Rousseau. Ça, c'est une petite critique que je me permets, désolée. Mm-hmm. Alors, sur, alors, là où c'est important que vous ayez mis Star Wars juste avant, c'est que Rousseau, il voit la question du théâtre, d'abord dans la lettre d'Alembert en général, et dans la question des relations entre les sexes en particulier. Donc, la notion de théâtre et la question de la séduction, c'est évidemment du théâtre. Maintenant, donc, ok, ça marche comme du théâtre, et nous le savons tous que la séduction, c'est aussi une scène, hein, la scène de séduction. Sinon, quant à ce texte, je l'ai cité, mais je l'ai cité avant même que des éléments de discussion ces dernières années soient venus, à savoir sur le redoublement du consentement. Le corps dit oui, mais il faut, comme il dit, le mot aveu. Le mot aveu, c'est-à-dire qu'il faut dire ce qu'on dit par exemple sur des campus aujourd'hui. Il faut dire oui, pas seulement y aller, pas seulement sembler d'accord, mais en plus énoncer le oui. Là, on retrouve la question du corps et de la tête, si je puis dire. Et ce qui est intéressant, alors il y a ça, évidemment, cet aveu, mais ce qui évidemment nous ramène à Rousseau, c'est que c'est unilatéral. C'est que la question, c'est une question qui est l'homme vers la femme va attendre l'aveu une fois que le sentiment a déjà... C'est pas du tout symétrique. On n'est pas dans un passage de la symétrie chez Rousseau, contrairement à Milton. Et contrairement... La suite de l'histoire, c'est quand Coderlo de Laclos fait la distinction entre les femmes qui ont accepté de consentir alors qu'elles n'en avaient pas envie. Et c'est comme ça que se crée la ruse.
Dans les liaisons dangereuses.
Alors non, c'est dans De l'éducation des femmes, qui est un livre de 1783, qu'on peut se procurer facilement. J'ai vu que, comme j'en ai parlé plusieurs fois déjà maintenant ce mois-ci, des retours me reviennent et j'en suis très heureuse. C'est précisément parce que c'est l'auteur des Liaisons dangereuses que je le cite, mais je le cite aussi pour une deuxième raison, qui est qu'il y a eu un débat entre anthropologues au début des années 80, entre Maurice Godelier et Nicole-Claude Mathieu, qui a écrit un célèbre texte qui s'appelle « Quand céder n'est pas consentir » et qui est directement, qui vient de ce texte de Coderlo de Laclos, où il explique comment finalement il y a l'unilatéralité du consentement quand on est dans l'espace social et politique, et c'est pas seulement, on est passé, si vous voulez, du divorce à ce que j'appelle la deuxième histoire, à savoir l'histoire collective, qui est le consentement d'une catégorie, que ce soit la catégorie sexuelle dans le rapport des sexes, ou que ce soit la catégorie des dominés dans une situation dominante.
Mais alors, avant d'en venir là à la dimension collective,
et j'ai toujours pas parlé de la volonté.
Justement, restons un instant sur le texte de Rousseau. Il emploie cette expression, il faut oui. De plus... Le consentement de la volonté. Vous disiez dans l'extrait de La Guerre des Étoiles, oui, mais la séduction est toujours c'est comme une scène de théâtre, c'est toujours un jeu que l'on joue, mais il est extrêmement difficile de dire où commence et où s'arrête ce jeu de la séduction, précisément parce que parfois le corps et l'esprit sont en contradiction, parce que parfois, qui ne dit mot consent, mais parfois c'est exactement l'inverse. Comment peut-on établir clairement, nettement, et il le faut dans une dimension juridique, le consentement, s'il y a ou non consentement de la volonté?
Alors, il faut, c'est là où nous sommes aujourd'hui, à l'automne 2017, et j'ai presque envie de dire il était temps, nous sommes dans une histoire collective et pas seulement individuelle. Si ce mot volonté m'intéresse, et ça fait quelques années que je dis que le mot consentement est archaïque, je suis ravie d'avoir fait ce livre au milieu des années 2000, c'est vrai que je pense que ce mot, je l'ai dit deux, trois fois déjà ces temps-ci, est archaïque. C'est parce que précisément, parce qu'il a cette épaisseur complexe, on peut-être discuter de ce que serait la volonté des parties. Hein, les parties consentantes, comme on dit aussi, je l'ai trouvé là encore dans La Rose du XXe siècle, dans mes repérages de ces derniers jours. Les parties consentantes, c'est de volonté, c'est une question de volonté. Et là, on rentre, si vous voulez, dans l'espace collectif. J'ai pas écrit ce livre pour parler du consentement individuel, uniquement de la question du rapport entre un homme et une femme, ou un individu et un autre individu, féminin ou masculin. J'en ai parlé parce que c'était employé comme un argument politique, comme quoi il y aurait des consentements collectif. Et c'est intéressant de voir que la question qui est soulevée depuis plus d'un mois maintenant est une question d'un consentement collectif. Et c'est là où je pense que le mot consentement va peut-être devoir être émancipé ou abandonné. Et je propose depuis 2-3 ans, je me suis amusée à cette discussion, notamment dans une émission avec Laura Adler, en proposant le mot volonté. Mais ce mot volonté, il dit consentement de la volonté, ce qui est, une fois de plus, Rousseau est d'une intelligence prodigieuse. Mais si vous voulez, le mot volonté ne restituera plus le rapport. Mais le mot volonté aura une clarté qui, effectivement, permettra qu'on sorte de certaines discussions qui s'épuisent ces jours-ci autour de ce que c'est que le consentement.
Mais on disait que le consentement, le propre du consentement est d'établir un lien avec autrui. On donne ou on refuse son consentement. La volonté, elle, n'implique pas un tiers.
C'est bien pour ça que je suis à la fois dans cette proposition et en même temps consciente que la question... Mais si on est sur les consentements collectifs, la question du rapport entre deux personnes, ça devient des catégories. J'étais très étonnée que notre président de la République dise il y a 2 jours, je crois, que tout ça allait se régler au cas par cas dans l'espace du judiciaire, oubliant que ce qui se passe là est un phénomène qui engendre du collectif.
Oui, bien sûr, mais à l'échelle, le collectif est composé aussi d'individuels.
Non, mais attendez,
quand on parle des enjeux de séduction, réduire la séduction de la volonté, c'est passer sous silence tout ce qui est de l'ordre du désir. Désir peut être contradictoire avec la volonté.
Oui, mais ce qui vous voulez, là, je suis en train de vous parler d'une révolte politique. C'est-à-dire, je suis en train de passer aux politiques. On ne peut pas faire de la politique, c'était en ce sens que... Ça, je crois que c'est mon troisième chapitre quand je parle des ambitions. Parce qu'en fait, j'avais des chapitres assez structurés. C'était les ambitions du consentement, les défauts du consentement, puis les ambitions du consentement. L'ambition du consentement des années 2000, on l'a eu notamment dans des textes par exemple de Judith Butler, c'était de faire une addition des consentements individuels. Ce que nous montre l'histoire en train de se faire, car une histoire est en train de se faire aujourd'hui, c'est pas seulement une hystérie collective comme certains ont vu le croire, volontiers le croire au début. Dans cette histoire collective qui est en train de se faire, la question devient une question politique. Et d'une certaine façon, mon livre a posé cette question du politique aussi. Mais autrement, c'était, est-ce un argument politique? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que je vais construire le monde de demain avec des consentements individuels? Moi, je répondais non. Tout en ne répondant pas vraiment complètement, car mon livre n'était pas fait pour donner mon avis. Mais la question qui est posée aujourd'hui avec une révolte collective, quand vous avez 2000 musiciennes en Suède la semaine dernière qui protestent et à tel point qu'ils veulent faire un festival non mixte, ce qui se passe là, c'est que quelque chose du politique, c'est-à-dire du social, qui concerne des groupes d'individus et plus seulement des relations individuelles, même si ça passe, comme vous le dites, par des relations individuelles, c'est une question politique. Prenons un autre exemple qui est dans mon livre, Durkheim. Durkheim, vit l'époque où on va rétablir le divorce, en 1884 précisément, mais où le consentement mutuel ne sera pas retenu comme cause. Il n'y aura que les divorces par faute. Ce que j'ai connu dans mon enfance, autour de moi, il fallait faire des fausses lettres, etc. Pourquoi Durkheim refuse le consentement mutuel à un moment où ça devient un débat entre juristes très intéressant et entre politiques? Parce que lui veut protéger la famille comme une institution différente de l'institution sociale, ou comme qui s'articule de façon différente. Donc c'était la même chose que ce que pensait Rousseau. Hein. C'est la même chose que ce que va penser Alain. Il y a toute une tradition, en passant par Tocqueville, que j'ai oublié au passage. Donc eux veulent que cette question reste en dehors du politique. Ce qui est en train de se passer, et moi j'essaye de travailler en ce sens aussi, à travers mon travail et ce livre d'il y a déjà tant de temps, c'est de montrer qu'on est aussi que ça fait politique, que c'est du politique. Et c'est d'ailleurs du politique, puisque des effets sont politiques.
Comment vous définissez la dimension politique? À partir de quand c'est politique? Dès lors que c'est collectif?
Non, la dimension politique, c'est quand un « nous » collectif dit que c'est un problème.
D'accord.
Si vous voulez, par exemple, on change une loi, comme la loi sur le viol, à la fin des années 70, parce que c'est pour passer de délit à crime, c'est parce qu'il y a une mobilisation politique. Donc c'est pour ça que je parle de révolte par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un rapport de force. Quand Oxford suspend le professeur Ramadan, c'est pas parce que l'institution le décide, c'est parce qu'un rapport politique s'est instauré dans l'université avec les étudiants. Ils sont obligés de répondre à la demande des étudiants. C'est ce qu'on appelle un rapport politique.
La question est de savoir si toute réflexion sur le consentement, que ce soit à échelle individuelle ou politique, on a bien compris que pour vous les deux étaient absolument liés et que l'un engendrait l'autre, peut se faire sans genrer ce collectif et sans genrer les individus.
Ben oui,
c'est ce
mais
que
ben
le
oui,
texte de Rousseau attribue un rôle à l'homme et à la femme. Les extraits qu'on a montrés sont des extraits de consentement, de séduction ou de divorce entre un homme et une femme. La question des genres n'est pas secondaire dans cette histoire, y compris la question qui semble aller de soi, qui est celle de l'hétérosexualité. On va entendre un texte, cette fois-ci un texte d'une femme philosophe, puisque les philosophes que vous citiez sont surtout des hommes. Il s'agit de Monique Wittig, qui est l'auteur La pensée straight, qu'on trouve aux éditions d'Amsterdam, qui est paru en français en 2007, qui, elle, dénonce ce qu'on appelle le contrat et le contrat social, dans toute l'histoire des philosophes contractualistes, depuis Hobbes, Locke, Rousseau, comme étant en fait l'expression d'une domination de l'hétérosexualité. On entre ici, on atteint un degré de précision supérieur, mais ça laisse entendre aussi que finalement derrière la notion de consentement se trouve un engagement politique qui dit bien plus que la dénonciation d'une forme de harcèlement subi. Écoutez ce texte donc de Monique Wittig, interprété par la comédienne, j'espère que ça vous ira cette fois-ci, Anne Brissier.
Tout à fait.
Si j'examine ce qu'un contrat bien établi peut accomplir pour nous, je dois d'abord examiner les conditions historiques et les conflits qui peuvent nous permettre de mettre fin aux obligations qui nous garrottent sans notre consentement, puisque nous ne jouissons pas de réciprocité, la condition nécessaire à notre liberté. La notion de contrat social a été précédée par les réflexions de Hobbes et de Locke, des philosophes anglais du XVIIe siècle. Dans leur conception, aucune forme de société ne peut échapper à ce principe fondateur que le droit, c'est la force. Rousseau est le premier philosophe à ne pas considérer comme chose nécessaire à la bonne marche d'une société qu'elle s'appuie sur la raison du plus fort. Pour moi, les deux termes de contrat social et d'hétérosexualité sont superposables. Ce sont deux notions qui coïncident. Et vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité. L'hétérosexualité allait tellement de soi qu'elle n'avait pas de nom. C'était la norme sociale. C'est le contrat social. C'est un régime politique. Car il y a un présupposé, un déjà-là, du social d'avant le social. L'existence de deux, pourquoi deux, groupes artificiellement distincts, les hommes et les femmes. Les hommes entrent dans l'ordre social comme des titres déjà socialisés. Les femmes restent des titres naturels. Rompre le contrat social en tant qu'il est hétérosexuel, c'est une nécessité pour qui n'y consent pas.
Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h32. Nous sommes en studio avec la philosophe Geneviève Fraisse pour parler de consentement. Aidez-nous, Geneviève Fraisse, à comprendre ce texte de Monique Wittig qui affirme que rompre le contrat social en tant qu'il est hétérosexuel, c'est une nécessité pour qui n'y consent pas. Non seulement ici la réflexion est genrée, mais elle est même sexualisée.
Alors, d'abord, cette phrase est extrêmement célèbre. Première chose, et elle est rompre un contrat social comme on romprait un contrat matrimonial. Deuxièmement, Monique Wittig est une très grande écrivaine, je tiens à le dire. C'est sans doute une des écrivaines les plus importantes du féminisme de ces 50 dernières années littéraires. Je vais y revenir parce que je la cite aussi. Je cite ce texte dans mon livre et je cite aussi dans Le refus de consentir, qui est effectivement mon texte de 2017 et fait avant l'affaire Weinstein, mais qui a quand même une sorte de résonance étonnante. Et ça, ce sont deux choses. Alors, moi, on pourrait faire plusieurs commentaires. D'abord, sur la façon dont vous introduisiez ce texte, pour moi c'est extrêmement important, parce qu'au fond c'est une des choses que j'essaye de dire, notamment à mes amis philosophes, mes collègues philosophes, et dans une émission de philosophie, c'est que l'histoire est sexuée. C'est-à-dire que les sexes font l'histoire. C'est-à-dire que si on introduit la dimension sexuée dans une question, on va faire des découvertes extraordinaires. Mais en général, on exclut cette question comme étant du particulier. Or moi, je pense que ça innerve énormément de sujets, et notamment des sujets qui concernent et notre démocratie en général et nos relations sociales en particulier. Donc ça, c'est la première question, c'est la première remarque que je tiens à faire. La seconde, c'est que la position de Monique Wittig qui est s'échapper du contrat social, c'est-à-dire face à un contrat social où je ne me reconnais pas. Qui à l'intérieur introduit un contrat sexuel, ça c'est l'expression d'une autre femme philosophe que j'adore citer qui est Carole Patman. Dans ces deux cas, il n'y a plus que fuir ce que peut dire cette penseuse de l'homosexualité qui est du lesbianisme.
Qu'est-ce qu'elle entend par contrat social ? Dites-nous juste, parce que ça peut paraître abstrait.
Ben, c'est-à-dire que dans la société aujourd'hui, telle que nous vivons depuis un mois, il y a des femmes qui pourraient dire « il faut que j'échappe à ça ». Parce que la seule façon d'échapper, ou de toute façon, moi j'échappe à ça parce que j'entretiens des relations qui sont peut-être avec des problèmes de consentement mutuel, mais qui seraient c'est pour ça que le texte de Rousseau est un texte genré, c'est-à-dire c'est un homme qui parle, une femme ne pourrait pas dire le texte de Rousseau qui a été lu tout à l'heure. Donc parce qu'il est clairement le texte dit d'un homme pour un homme par un homme. et n'entretient pas l'idée que des femmes prennent la parole. Donc quand elle prend la parole, elle dit ça, comme je cite aussi, donc mon épilogue s'appelle « Et le refus de consentir », point d'interrogation, donc écrit cette année, où je ne prends que des textes de femmes pour montrer comment elles se sont trouvées face. C'est un peu ce que ce texte veut dire. C'est pas le refus de consentir individuel dans une relation sexuelle et sexualisée. On va y revenir. C'est une relation par rapport à la société telle qu'elle est construite avec les deux sexes. Ou avec une multiplicité de sexes, comme ça peut aussi se penser aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, toutes les femmes que j'ai citées, de Louise Michel à l'artiste américaine Coco Fusco, vont se poser la question de savoir comment rentrer ou ne pas rentrer dans le contrat social. Avec des exemples, si vous voulez, j'en parle tout de suite ou nous en parlerons plus tard, mais qui montrent bien que, puisqu'on est dans ce contrat social-là, je n'y ai pas ma place. Alors, avec Monique Wittig, c'est la question du lesbianisme, mais avec Louise Michel, c'est simplement le fait qu'elle pense qu'elle ne peut pas répondre à ses jurés. Parce que ce monde d'hommes n'est pas le monde.
Racontez-nous l'histoire de Louise Michel.
Je commence l'épilogue avec. Je vais tâcher de vous retrouver là.
Non, mais dites-nous rapidement pour qu'on sache de quoi vous parlez.
C'est-à-dire quand elle passe en conseil de guerre après la Commune. Voilà ce qu'elle va dire. Pourquoi me défendrais-je? Je vous l'ai déjà déclaré. Je me refuse à le faire. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Vous êtes devant moi un visage découvert. Et moi, je ne suis qu'une femme. Et pourtant, je vous regarde en face. Donc, elle décide de ne pas se défendre parce qu'elle pense qu'elle est dans ce contrat social. Qui fait qu'elle est de toute façon à l'extérieur. De la même façon, quand une Hélène Brion, pacifiste, institutrice pacifiste et féministe de la Première Guerre mondiale, passe en conseil de guerre, il leur dit « Dites donc, vous me faites passer en conseil de guerre, mais je suis pas citoyenne. Alors, je suis responsable, je suis coupable, mais pas citoyenne. » Donc, vous voyez bien, la question du contrat sexuel ou d'un contrat sexuel dans le contrat social est posée en termes collectifs et politiques, et pas seulement en termes individuels. D'où la position de Monique Wittig, qui est à plusieurs niveaux, à plusieurs étages. Et dans le refus de consentir, je recite Monique Wittig autrement, c'est pour dire que finalement, elle, ce qu'elle en conclut, c'est que c'est par l'écriture qu'elle va pouvoir expliquer qu'elle ne consent pas à ce contrat social. Donc, et c'est effectivement une écrivaine.
Mais est-ce que un des travers peut-être auxquels on s'expose quand on propose une histoire sexuée, aussi nécessaire soit-il, n'est pas d'essentialiser l'homme
pas
et la
tout.
Femme.
Mais c'est
parce qu'on part du principe du coup que qu'il est important de savoir que c'est une femme qui parle ou que c'est un homme qui parle, comme si ça signifiait quelque chose. On peut aussi ne pas se reconnaître dans le contrat social, mais pas en tant que femme forcément.
Non, mais attendez.
De même qu'on peut subir des relations, disons, de type de harcèlement même, puisque c'est de ça dont on parle beaucoup en ce moment, qui ne soit pas celui d'un homme envers une femme. Ça peut être d'une femme envers une autre femme, d'un homme
mais
envers
moi,
un autre homme.
Mais moi, je peux parler de ça parce que depuis le début de ma recherche, qui remonte maintenant à quelques décennies, je ne m'intéresse pas à la question de l'essence. Je l'ai mise de côté, la question de l'essence et de la question de l'identité, ça ne m'intéresse pas. Si je parle du consentement, c'est précisément parce que j'ai voulu trouver le concept, et le concept qui parle à tout le monde, pour poser une question qui
est celle... Mais peut-on genrer sans essentialiser? C'est ça la question?
C'est tout mon travail consiste en cela, bien entendu. Tout mon travail consiste en cela. Quand je prends les deux gouvernements, pour parler du gouvernement, quand je dis démocratie exclusive, puisque ce livre vient aussi d'être réédité, c'est que j'essaye d'avoir des concepts, ou quand je parle du privilège de Simone de Beauvoir, c'est parce que c'est un mot qu'elle emploie, c'est pas le mot que j'emploie sur elle, c'est le mot qu'elle emploie à son propos, à elle. Donc j'essaye d'extraire de l'essence Simone de Beauvoir le mot qui va me permettre d'entrer dans son œuvre, et qui est une notion que je transforme en concept. Donc tout mon travail consiste précisément à essayer d'être philosophe, et non pas catégoriel identitaire, mais bien avant que les débats sur l'identité nous cassent les oreilles comme toutes ces dernières années. Donc moi, je traverse cette question-là en pouvant dire un homme, une femme, car c'est pas mon propos. Mon propos est de trouver la bonne question. Et si vous m'invitez aujourd'hui, c'est parce que j'avais cherché la bonne question au moment où tout le monde s'écharpait sur le foulard et la prostitution, et que moi j'essayais de trouver le mot qui parlerait à tout le monde et qui permettrait de rentrer la question sexuée. Et aujourd'hui, vous voyez bien que on ne fait pas de l'identitaire, mais c'est une révolte qui porte, puisque c'est une révolte, cet événement d'affaire Weinstein et compagnie, puisque c'est tous les jours, la semaine dernière, c'était tous les matins, il y avait une nouvelle histoire, à la fois chez les jeunes. Et c'est très intéressant, parce que les catégories disparaissent, par exemple. Quand on luttait pour que le viol devienne un crime à la fin des années 70, on nous accusait de vouloir envoyer les immigrés, basanés, évidemment arabes, en prison. 30 ans plus tard, on pourrait nous accuser d'envoyer les puissants blancs, riches et puissants, on va le dire, en prison. C'est très intéressant, c'est-à-dire les catégories bougent. La question n'est pas de définir les catégories, c'est qu'elles sont, c'est comme, c'est, si vous voulez, c'est comme une machine. Il y a des pièces de la machine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la machine, à savoir, par exemple, le consentement individuel, le consentement collectif, est-ce un argument, etc. Puis de me dire, bah, finalement, non, le mot volonté est plus intéressant. En tout cas, le mot consentement va dépérir, c'est peut-être très bien, il faut en trouver d'autres, etc., etc. Et à ce moment-là, bah, la machine, hein, le mobile de Calder, moi, j'aime beaucoup, bouge, et à un moment, l'homme, c'est ceci, ben voilà, et à un moment, on peut se retrouver en conseil de guerre en 1918, parce qu'on est une femme non citoyenne, pacifiste, féministe. Ou bien, voilà, vous voyez, donc, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, c'est très bien, il faut traverser, et c'est ces mots-là qui peuvent faire que, quand je dis l'histoire est sexuée, j'ai pas besoin de définir, surtout pas. Mais parce que aussi, je suis une tenante de l'historicité et non pas du schéma nature-culture.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que moi, je joue pas la carte qui est majoritaire dans la pensée féministe, qui est nature contre culture, culture contre nature, dans tous les sens. Est-ce que c'est construit, la différence? Est-ce que c'est pas construit?
Est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on devient femme?
Blablabla. Et moi, je dis, je m'intéresse pas à cette question-là, je peux rien en faire. Par contre, l'historicité, qui n'est pas seulement l'histoire. L'historicité, c'est-à-dire d'où on vient. Là, quand par exemple, quand je fais le refus de consentir, j'établis une lignée qui va de Louise Michel en passant par Hubertine Auclert, Hélène Brion, Virginia Woolf, une femme à Berlin, Valérie Solanas, qui elle aussi est pour faire sauter à la banque, hein, elle, le contrat social elle aussi, Monique Wittig, puis Coco Fusco, quand elle est confrontée à la militaire d'Abu Ghraib qui humilie, où là l'histoire est inversée, et où elle écrit une lettre à Virginia Woolf pour lui dire que faire. Donc je fais toute une lignée de femmes qui vont se retrouver et confrontées à des moments d'histoire différents pour savoir comment elles sont à la fois dans, exclues et incluses, quoi.
On va écouter un extrait justement des Trois Guinées de Virginia Woolf. C'est un texte fantastique qui est publié en 1938. C'est une sorte de fiction épistolaire et pamphlétaire. Et dans ce livre, une femme répond à la lettre d'un homme qui lui demande de l'aide pour empêcher la guerre et préserver la liberté intellectuelle. Virginia Woolf, la narratrice, se pose la question de savoir alors quelles sont les armes à sa disposition en tant que femme pour lui fournir cette aide. Écoutez la solution qu'elle propose.
Traçons les grandes lignes de ce projet de société, celles que pourraient fonder les filles d'hommes cultivés. Vous serez soulagée d'apprendre en premier lieu que cette nouvelle société n'aura pas de trésorière honoraire, car elle n'aura nul besoin d'être financée. Elle n'aura pas de bureau, pas de comité, pas de secrétaire. Elle n'organisera aucun meeting. Elle n'organisera pas de conférence. S'il faut absolument lui donner un nom, elle pourra s'appeler la Société des Marginales. Ce n'est pas un nom très ronflant, mais il présente l'intérêt de convenir aux faits enseignés par l'histoire, par la loi, par les biographies, et peut-être même avec des éléments encore ignorés de notre psychologie. Un devoir s'imposera, d'une difficulté considérable et qui demandera non seulement du courage et de l'initiative, mais toutes les connaissances spécifiques. Il s'agira en fait de ne pas inciter leurs frères à se battre, de ne pas non plus les en dissuader, mais de s'en tenir à une attitude d'indifférence totale. Lorsque son frère dit, et l'histoire prouve qu'il l'a dit et qu'il peut le redire encore, « Je me bats pour protéger notre pays », dans le but d'éveiller chez elle une émotion patriotique, elle se demandera « Que signifie le mot « pays » pour moi, l'étrangère ?» Pour en décider, il lui faudra analyser le sens que peut prendre pour elle le terme de patriotisme. Et s'il prétend se battre pour protéger l'Angleterre, pour l'empêcher d'être gouvernée par des étrangers, elle se dira qu'il n'existe pour elle pas d'étranger, puisque de par la loi, elle devient étrangère en épousant un étranger. En tant que femme, dira l'étrangère, je n'ai pas de pays. En tant que femme, je ne désire aucun pays. Mon pays à moi, femme, c'est le monde entier.
Mon pays à moi, femme, c'est le monde entier. Là, pour le coup, ce texte est génial, on peut commencer par ça, Geneviève Fraisse.
Oui.
Mais par rapport à la suite de la discussion que nous venons d'avoir, faut-il genrer, faut-il sexuer l'histoire même du consentement? Ici, c'est en tant que femme que la narratrice s'exprime, que Virginia Woolf s'exprime, et être femme semble impliquer une certaine vision du monde. Mon pays à moi, femme, c'est le monde entier. Vous, les hommes, vous êtes patriotes parce que vous êtes des hommes.
Oui, mais laissez tomber la catégorie.
On peut pas.
Non, c'est pas facile. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile.
Mais justement aussi. Active,
alors d'abord une chose. Il me semble, j'ai peut-être un doute, mais il me semble que ce texte n'a pas été retenu par les éditions de la Pléiade, alors que c'est un texte.
Les Trois Guinées, qui est moins connu.
Totalement, c'est vrai. Totalement extraordinaire, qui doit être aussi connu qu'une chambre à soi, qui devrait être et qui doit être. Alors non, parce que c'est par là qu'elle va rentrer. Justement, vous avez terminé sur le monde entier. D'un côté, elle dit « je suis une étrangère », et de l'autre côté, elle dit « je suis dans le monde entier ». Donc, si vous voulez, elle s'en fiche de savoir quel type de femme elle est. Et de ce point de vue-là, je suis comme elle. Je m'en fiche complètement. Mais elle est à la fois, elle sait qu'elle est à la fois exclue et incluse, et ça bouge dans l'histoire depuis deux siècles. La façon dont j'ai été, vous voyez, pour Louise Michel, c'est d'une certaine façon. Pour moi, 150 ans plus tard, c'est d'une autre. Donc, on va laisser tomber ma définition. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est savoir ce qu'on peut faire. Et pourquoi, moi, j'ai cité donc à plusieurs reprises ce texte dans mon épilogue, d'une part pour le texte de 1938, mais aussi pour le texte de cette artiste américaine qui a été traduit par le... Je vais retrouver l'éditeur, qui est le texte de cette artiste Coco Fusco, qui est préfacé par le collectif d'artistes Claire Fontaine, qui reprend ce texte de Virginia Woolf. Et c'est intéressant parce que le collectif Claire Fontaine le reprend non pas comme femme, mais comme pouvant avoir cette position de Virginia Woolf en tant que n'importe qui, homme, femme, trans, n'importe qui, n'importe quoi. Mais elle dit, ce texte, je peux me l'approprier, et c'est à ça que moi je travaille, si vous voulez, que quand j'écris un texte, c'est pour qu'il soit approprié. Quand l'expression démocratie exclusive est emportée dans d'autres espaces que l'espace de l'exclusion des femmes, moi je saute de joie. Ça veut dire que quelque chose de ce qui est dit à partir d'un lieu de la société et d'un moment d'histoire peut être emprunté et utilisé par d'autres. C'est ça, faire du travail intellectuel, plutôt que de dire
c'est la plasticité
des concepts. Qui je suis, ça c'est pas du tout intéressant, qui sommes-nous. Donc elle dit bien, elle est dans les deux mondes, c'est pour ça qu'elle fait cette lettre. Et ensuite, donc quand Coco Fusco va se dire, qu'est-ce que cette histoire d'Abu Ghraib, et je termine quand même là-dessus, la question du refus de consentir.
Son livre, c'est Petit manuel de torture à l'usage des femmes soldats.
Voilà, merci.
Le livre de Coco Fusco qu'on publie aux Prairies Ordinaires.
Prairies Ordinaires, oui, c'est ce que je voulais dire, j'étais plus très sûre. Donc là, ce qui se passe, c'est que une femme se dit, une femme a humilié des hommes, ça c'est l'histoire d'Abu Ghraib. Une femme a humilié des hommes, sexuellement parlant, du point de vue de l'armée, donc on n'est pas dans une histoire individuelle, du point de vue d'un collectif. Et à ce moment-là, une artiste se dit, que dois-je faire? Et elle écrit une longue lettre à Virginia Woolf. D'abord, elle va aller s'entraîner pour voir ce que c'est que d'être... Donc elle se dit, que font les femmes quand elles sont incluses? Est-ce qu'elles vont pas faire comme les hommes? Ben oui. Donc la question se pose, et ce qui est très beau, c'est à la fois l'avant-propos fait par ce collectif d'artistes français, mais aussi le texte de Coco Fusco qui dit, toi qui as été... Que puis-je faire? Tu vois, nous en sommes là maintenant. Ouais. Nous ne sommes plus marginales. Nous sommes des citoyennes, nous sommes des militaires, nous sommes des chefs d'armée, tout ce qui n'était pas le cas, évidemment, entre les deux guerres. Mais maintenant, on fait quoi? Donc, la question, vous voyez, j'ai pas besoin...
Est-ce qu'elle essaye d'y répondre à cette question?
Bah, elle y répond par sa performance. Bon, donc ça, c'est toute l'histoire qu'il faudrait suivre ensuite. Mais là, moi, je l'ai restitué que l'interrogation qui s'inscrivait dans cette lignée longue... voilà, et qui est complexe, parce qu'on n'a pas parlé d'une femme à Berlin, que je cite aussi dans ce texte, où quand même la femme va accepter d'être violée pour sauver sa peau, sa vie, comme les autres femmes berlinoises, quand l'armée russe arrive à Berlin. C'est un texte anonyme, donc qui a été publié au début des années 50 et republié il y a quelques années, qui est un texte stupéfiant, où elle va effectivement accepter le viol tout en écrivant le récit de tout ça. De
ça, c'est compliqué, parce que ça reste un viol, quand bien même consentement il y a eu.
Non, mais il n'y avait pas consentement. Elle a d'abord été violée sérieusement par des équipes d'hommes. Là, ça devait être plutôt genre tournante.
Alors pourquoi dites-vous qu'elle a été, elle a accepté?
Au bout de deux ans, enfin, au bout de je ne sais plus de combien de temps, je ne vais pas dire de bêtises, ben, elle a fini par accepter, c'est-à-dire parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Sinon,
ah oui, elle est pas vraiment elle
à la casserole. Oui, quand je dis mais je vous l'ai dit depuis le début. Consentir, c'est choisir ou accepter. C'est vouloir ou n'en pouvoir mais. C'est quoi une victime consentante? C'est quelqu'un qui préfère sa vie, c'est la bourse ou la vie. Ben, que vous donnez la bourse pour garder la vie.
C'est
pas nouveau.
Une
vous voyez bien que ça aussi, la question sexuelle peut s'élargir. Hein, la bourse ou la vie, c'est pas autre chose. Hein. Vous croyez pas que c'est ce que pensent un certain nombre de femmes face à des situations? Ben c'est la bourse ou la vie, ben je préfère la vie.
Et c'est
il y a eu des récits d'une jeune femme américaine, d'ailleurs, c'était dans la revue de Marie-Victoire Louis, qui avait raconté comment elle avait fait un récit très long, parce que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est la question du récit, les femmes racontent. C'est pas seulement la plainte, c'est le récit.
Et c'est pour ça qu'on entre dans choisi un autre paradigme. De finir dans cette nouvelle édition du consentement, donc votre ouvrage, vous avez rajouté cet épilogue et le refus de consentir.
Oui, qui a été écrit il y a 6 mois, hein, qui n'a pas été écrit depuis 4 semaines.
Justement, pourquoi le refus de consentir?
Mais parce que moi, j'ai fait le livre sur le consentement parce que ça apparaissait comme un argument politique. Notamment quand j'étais au Parlement européen et que pour les débats qu'il y avait sur la prostitution, qui ont été très, 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 très virulents au moment où j'étais au Parlement, c'est-à-dire entre 1994 et 2004. Et donc ça apparaissait comme une notion politique, le consentement. Donc moi j'ai fait un livre pour comprendre pourquoi c'était une notion politique. Mais d'habitude, je travaille plutôt sur la question de l'émancipation, non pas comme somme de consentements individuels ou de volontés individuelles, mais d'une manière plus globale. Et à partir de là, à ce moment-là, la question moi je travaillais plutôt sur le non. Donc c'est vrai que quand Le Seuil m'a demandé un texte pour la réédition, j'ai dit enfin je vais pouvoir parler du non.
Ouais, c'est oui ou non, tu veux ou tu veux pas.
Tu veux pas. Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique, y a du mauvais.
Merci Geneviève Fraisse d'être venue nous parler du consentement aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Du consentement, aux éditions du Seuil avec une édition augmentée de cette postface, donc l'épilogue, le refus de consentir, écrit il y a 6 mois, nous disiez-vous. Et puis je renvoie également à la lecture de Muse de la raison, démocratie et exclusion des femmes en France, qu'on trouve en folio, collection Histoire.
Elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Vous voulez ou vous voulez pas?
Ah ben moi je veux.
Bon, eh bien alors allons-y.
Je consens.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui?
Alors une fois n'est pas coutume, c'est quelque chose qui s'écoute, qui a aujourd'hui retenu mon attention, alors ça tombe bien pour la radio. Ce sont 6 CD sortis au début du mois d'octobre chez Frémaux et Associés, à qui l'on doit entre autres La recherche du temps perdu de Proust en version audio que l'on connaît bien ici au chemin. Mmh. Mais cette fois-ci, il s'agit de Penser à voix haute de l'écrivain Michel Butor et qui, un peu à la manière de Gilles Deleuze, nous livre son abécédaire.
L'ordre alphabétique a une propriété tout à fait remarquable, c'est que c'est un ordre qui n'est pas du tout hiérarchique. L'ordre alphabétique, en principe, met les différents termes à égalité. Ce sont des portes qui ne sont pas privilégiées les unes par rapport aux autres. On peut entrer par la porte A ou on peut entrer par la porte T et on va arriver dans des régions intéressantes, j'espère, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre.
Comment s'orienter dans une œuvre? Voici la question au fond que posent ces 28 courts entretiens. Question qui se pose à quiconque voudrait pénétrer dans l'œuvre originale et expérimentale de Butor et qui se pose d'ailleurs à tous ceux qui voudraient entrer dans n'importe quelle pensée, système ou monde imaginé ou conceptualisé par un écrivain ou un philosophe. On pourrait dire que la meilleure manière d'entrer dans une œuvre, eh bien, c'est par le début. Mais alors, par où commencer? Par quel bout la prendre? Qu'est-ce qu'un début? Est-ce l'origine? Est-ce le plus accessible? Dans quel sens se lit donc une œuvre? Comment ne rien ne rien en rater et pouvoir dire « je l'ai lu, oui, je l'ai comprise », eh bien, à cette question, l'alphabet aléatoire, encyclopédique, pourrait donc être la meilleure réponse, celle de Michel Butor en tout cas, tout comme cette autre mise en œuvre et expérience quotidienne qu'est le journal.
Le journal quotidien est un genre littéraire tout à fait extraordinaire, passionnant à étudier, d'abord parce que c'est une œuvre collective, il y a de très nombreux auteurs là-dedans, qui travaillent en réseau et qui nous donnent une lecture qui est aussi d'un type très particulier, parce que on ne lit pas le journal de la première à la dernière page. On choisit, on regarde la table, on lit l'éditorial pour avoir une espèce de température de ce dont ils conviennent parler ce jour-là ou ces jours-là. Et puis, nous picorons ici ou là un certain nombre de choses. Il est très rare d'avoir lu le journal en totalité. Nous faisons toujours un choix.
Comment s'orienter donc dans une œuvre, ou plus précisément, comment s'orienter dans une œuvre sans donc en perdre une miette, sans préjuger, ni hiérarchiser, mais bon, en mettant quand même de côté. Faut-il se laisser guider ou faire un choix, et quel choix? Faut-il commencer par telle ou telle pièce? Oui, cette question, Michel Butor l'entend presque de manière spatiale, géographique. Avec lui, le journal devient ainsi une sorte de territoire dans lequel on se balade. Une œuvre est une matière qui se tisse et dans laquelle on se faufile. La lettre C est bien sûr celle du château, le I renvoie aux îles et le W au western qui transgresse les frontières. Et puis il y a bien sûr le L du labyrinthe, ligne droite qui varie ou qui se multiplie. Butor, lui, en préfère une autre.
Il y a une troisième sorte de labyrinthe qui est le labyrinthe dans lequel il y a des îlots. C'est-à-dire dans lequel il y a des régions autour desquelles on peut tourner. Et alors là, on peut tourner indéfiniment si on ne met pas de point de repère. Et donc c'est là véritablement que l'on peut se perdre. Alors évidemment, dans le monde où nous vivons, le labyrinthe est partout. Nos villes sont très souvent très labyrinthiques. Il y a quelques grands axes, mais il y a souvent un tissu dans lequel il est très long de trouver son chemin.
Comment donc s'orienter dans une œuvre? Encore une fois, la question apparaît, mais pas seulement pour savoir comment y entrer ou comment entièrement, pleinement l'embrasser, mais tout simplement pour ne pas s'y perdre. L'alphabet a bien une fin, une œuvre aussi, mais en a-t-on jamais fini? Tout comme le suggère Butor, et à l'image de la ville moderne, de la villa ou du papier, certes finie et limitée, une œuvre, un mot sont des lieux de possibilités infinies qui, à partir de la même matière, continuent à s'arpenter sans jamais lasser.
Surtout que là, il y a 6 CD, vous dites.
6 CD.
On a le
de
temps de
ne
pas
Z.
se lasser, en effet.
Ah non, aucun moyen de se lasser. C'est donc édité chez Frémo et Associés. Et c'est aussi des entretiens avec Alain Siciliano, il faut le signaler.
Merci beaucoup de cette découverte, chère Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que Maud Markiewicz, David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Anne Brissier qui est à la lecture des textes, y compris masculins, Myriam Guillot qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série d'émissions sur le consentement demain. Marie Boucher, maître de conférence en littérature des États-Unis à l'Université Toulouse de Jean Jaurès, viendra vous conter l'histoire de Lolita de Nabokov, ou comment la passion d'un homme de 40 ans pour une jeune, très jeune fille a défrayé la chronique et produit un chef-d'œuvre. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter, nous attendons vos remarques et commentaires, et sur le site internet des Chemins de la Philosophie, où vous trouverez toutes les informations bibliographiques du jour, et vous pourrez également réécouter, télécharger l'émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous demain à 10h donc, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.